bénir ceux qui sont autour de nous et amener le royaume à ceux qui sont autour de nous. Et mince. Du coup, le psaume 1, verset 1 déjà, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Et donc du coup, j'ai vraiment à cœur de vraiment faire un peu un parallèle. Là, David nous compare à un arbre qui traverse des saisons et qui porte du fruit, et de nous comparer, nous, nos vies, à cet arbre. Et la première fois que j'avais lu ce passage, il y a très longtemps, en lisant bien, on dit oui, moi je m'étais dit oui, donc il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en tout temps. Et après je me suis dit, ah non, il n'est pas écrit en tout temps, il est écrit qu'il donne son fruit en sa saison. Ah, donc ça veut dire que déjà on ne porte pas du fruit tout le temps. Mais pourtant, c'est quand même écrit, tout ce qu'il fait réussit. Et du coup, déjà pour moi, ça apporte la notion de qu'est-ce que je veux amener dans ma vie, qu'est-ce que je veux porter, on n'est pas forcément appelé à toujours être dans le oh purée, le maximum de rentabilité, de tout ce qu'on fait, mais non, Dieu a quelque chose de prévu, et c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait croître, et c'est en son temps que les choses vont venir et que le fruit sera visible. Et moi, en fait, juste pour petite expérience, en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur, je m'étais dit trop bien, je donne ma vie à Jésus, et tout, c'est génial. Et du coup, ça va être de gloire en gloire. Donc en fait, ça va aller mieux dans ma vie, dans mon domaine. À l'époque, j'étais à l'école, donc à l'école, sentimentale, amicale, tout. Je m'étais dit, voilà, il sera de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et par contre, si à un moment donné où il y a un crash, et bien là, ce qui est arrivé, bien sûr, et là, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, punaise, mais c'est pas vrai, mais je suis nulle, mais je croyais que j'avance avec Dieu, mais en fait, c'est n'importe quoi, mais en fait, qu'est-ce que t'as construit, rien du tout. Et tout s'écroulait, tout s'effondrait. C'est la catastrophe. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie avec Dieu, moi, je suis très linéaire, et en fait, j'aime beaucoup les maths, et en fait, c'est pas une croissance linéaire, c'est pas une droite, mais c'est vraiment des saisons et des cycles. Ça veut dire que Dieu, il va utiliser les saisons et c'est quelque chose qu'on doit voir de la manière de Dieu et sa vision à lui n'est pas la même que la nôtre. C'est vraiment de manière cyclique et qu'en fait, il y a un début à tout et une fin à tout. Mais c'est une bonne chose. Alors, Jésus lui-même, dans sa vie, a eu des saisons. Si on lit le début, Luc 2, verset 52, Jésus croissait, donc comme un arbre, en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc déjà, toute son enfance, et jusqu'à même l'âge adulte, Jésus croissait dans différents domaines de sa vie. Et nous aussi, on est appelés à grandir. C'est pas tout de suite qu'on porte du fruit. Moi, au début, je m'étais dit, ouais, Jésus, c'est quand même un super héros. Et si on regarde bien, Jésus, il n'avait pas une bande de copains, il n'avait pas un fan club enfant, il n'était pas déjà en train de faire des miracles dans la cour de l'école, pas du tout. Ça, ce n'est pas du tout raconté. C'était un enfant normal qui croissait. Et c'est important de connaître vraiment ça, les étapes dans lesquelles nous sommes, comme Jésus lui-même a connu les étapes dans lesquelles il était, pour vraiment les traverser au mieux et vraiment tirer le meilleur de ces saisons. Donc première saison, donc j'avais un super arbre énorme planté au bord de l'eau sur mon PowerPoint, vous ne le voyez pas. Alors du coup, j'étais inspirée ce matin, j'ai quand même amené une petite plante, mais je ne savais pas que mon PowerPoint ne marchait pas, donc c'était peut-être inspiré. Alors elle n'est pas plantée, ah si, il y a une réserve au fond d'eau. Voilà, c'est ça. Il y a une réserve d'eau, j'avais oublié. En fait, quand j'arrose, il y a de l'eau au fond. Et c'est pour faire exprès pour que la plante puisse aller mettre ses racines pour prendre l'eau. C'est magnifique. C'est en miniature. Donc imaginez, cette plante, elle est jolie. C'est juste que j'ai encore du mal à la faire pousser. Mais à la base, elle est censée être très grande. Voilà, donc moi aussi j'apprends. C'est pas moi qui fais pousser. Okay, c'est dans nos vies, heureusement, c'est le Seigneur qui fait pousser. Mais c'est un peu une image. Voilà, de nous, voilà. Donc le printemps, qu'est-ce qui se passe? Le printemps, c'est un climat favorable, il y a du soleil, les températures sont douces. Qu'est-ce qui se passe? Les bourgeons éclosent, l'arbre commence à grandir, donc les tiges s'allongent, des petites tiges toutes fines, toutes nouvelles, ça fleurit. Franchement, c'est ma saison préférée. C'est plein de promesses. La fleur promet mais qu'il y aura un fruit. C'est vraiment quelque chose où c'est rempli de joie, c'est rempli d'espérance. Il y a quand même un élan de nouveauté. Et dans nos vies, c'est un peu, si vous traversez cette saison-là, c'est un peu vraiment quelque chose qui est quand même super, super passionnant, quoi. Il y a de la vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais à la fois, c'est une période aussi de fragilité, parce qu'en fait, au printemps, quand tous ces petits bourgeons-là s'ouvrent, les petites tiges se développent, c'est là où justement l'arbre est vraiment sensible à tous les parasites. Toutes les petites bêtes qui viennent, les pucerons, et toutes des petites maladies qui viennent se nicher dans l'arbre. Et c'est là où justement, si on n'y prend pas garde, et si l'agriculteur n'y prend pas garde, ben c'est là où son arbre peut attraper des maladies, peut attraper vraiment des choses qui peuvent vraiment altérer la récolte. Et c'est un moment où dans nos vies, quand des fois on a plein d'élan, de projets, ce qui est bon, et si peut-être vous sentez dans certains domaines, dans un printemps, ben de vraiment avoir cette vigilance de dire, ok, je suis dans un printemps, mais à moi aussi de protéger l'arbre que je suis. Protéger des menaces extérieures, protéger de ce que l'ennemi voudrait insuffler dans nos vies qui pourrait détruire justement ces petites pousses et cette récolte. Donc un arbre produit, donc grandit en hauteur, comme je dis, donc les tiges et tout ça. Mais j'ai découvert, enfin j'ai découvert, vous le savez, mais il y a des spécialistes qui le savent plus que moi, mais qu'un arbre grandit aussi en épaisseur. Et en fait, au fur et à mesure des années, l'arbre crée comme des cernes, des anneaux de bois qui vont faire qu'il va grossir, que le tronc va grossir. Et donc dans nos vies, souvent, il y a la partie visible où on grandit, on a une envergure, on commence à apprendre, à avoir des compétences dans tel domaine ou de l'expertise dans un domaine. Voilà, donc ça, c'est plutôt l'envergure. Mais on ne voit pas des fois qu'il y a une solidité aussi qui est là et qui, au fil des saisons, est là pour... qui grandit. Et en fait, ces cernes de bois, ce qui m'a trop parlé, c'est que c'est elles qui font la solidité du bois, mais surtout celle du milieu. Au fur et à mesure que le bois grandit, que les cernes se construisent, se mettent l'une année après année, celle de l'intérieur, elle meurt. Mais elle meurt, mais c'est elles qui font la solidité du bois. Et en fait, ça m'a trop parlé du fait que nous, dans nos vies, à ce verset, c'est Jean-Baptiste qui disait dans Jean 3, verset 30, qui dit, en parlant de Jésus, il parle et il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et qu'en fait, ce qui fait la solidité dans nos vies, c'est pas juste de grandir en envergure, mais c'est de grandir à l'intérieur. Et que Dieu grandisse en nous, c'est ça qui va faire la solidité de nos vies. Et ça qui va faire que le bois va être résistant et qui va pouvoir tenir. Et autre chose que j'ai appris j'ai un frère agriculteur en plus, donc c'est pas mal, qui vient me tailler mes arbres et de temps en temps. Et c'est qu'en fait, la croissance d'un arbre, un arbre grandit toujours. Donc ça déjà, c'est la bonne chose. Si vous avez l'impression que vous êtes dans une période de votre vie, vous dites, mais punaise, franchement, j'ai pas l'impression d'avancer. Rassurez-vous, Dieu est toujours en train de faire avancer les choses, il est toujours en train de grandir. Donc un arbre grandit toujours. Mais, au printemps en particulier, mais ça peut être dans d'autres saisons, il se peut qu'il y ait des choses qui gênent l'arbre et qui ralentissent par contre sa croissance. Et en fait, les cerneaux vont toujours être là, les cernes de bois, on les voit, mais un arbre qu'on appelle libre, ça s'appelle un arbre libre, il aura des cernes vachement plus épaisses et le tronc sera beaucoup plus gros. Et on appelle ça en agriculture l'autre arbre. Un arbre qui est gêné, c'est un arbre opprimé. Et je trouve ça incroyable comme nom, de se dire que dans nos vies, il peut y avoir des choses, ça peut être des arbres où justement il y a trop d'ombre, où il y a des choses qui le gênent pour pousser. Et en fait, nous, dans nos vies, c'est aussi notre rôle d'être, on est responsable de nos cœurs et de se dire, ben, ok, se poser la question, qu'est-ce qui peut-être me pollue dans mon environnement? Qu'est-ce qui gêne la croissance de mon arbre? Est-ce que je sais pas moi, une relation toxique, où je me nourris des réseaux sociaux qui au final m'amènent pas grand-chose et plutôt au contraire ça me étrique dans ma croissance. Est-ce que du coup je me nourris plutôt de choses qui sont aléatoires, qui sont éphémères et qui sont pas basées sur la parole de Dieu? Et ça, c'est vraiment un encouragement à nous poser cette question pour vraiment grandir en solidité, de voir qu'est-ce qui gêne dans ma vie et l'enlever, quoi. Donc un arbre grandit en hauteur, en épaisseur, et au printemps il grandit aussi en profondeur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Et dans cette image de l'arbre que Dieu m'avait donnée, ou qu'on voit dans le psaume 1, les racines vont puiser l'eau dans le courant d'eau. Et l'eau, ça représente quoi? Ça représente Dieu. Et en fait, nous, notre rôle pour grandir, c'est vraiment d'aller puiser dans la parole de Dieu, puiser dans notre temps personnel avec Dieu, dans notre intimité, pour vraiment développer ses racines au maximum. Parce qu'on ne peut pas grandir en hauteur ou de manière visible si on ne grandit pas dans ce qui est invisible. Et ça, c'est une des clés pour nos vies, c'est que un grand arbre, quand on voit un grand arbre, il est grand à l'extérieur, mais en fait, il est des fois presque plus grand à l'intérieur. Et en fait, de vraiment chercher, dans ces temps propices de printemps, à développer notre relation avec Dieu, développer notre ancrage en Dieu, dans sa parole, comme il le dit, il la médite sa parole jour et nuit. On est peut-être peu à la méditer la nuit. Donc, le printemps, saison quand même pas mal, où on grandit. Donc, peut-être que vous avez l'impression d'être dans un printemps dans certains domaines, en sachant qu'au niveau des fruits, on peut être dans des saisons différentes selon les domaines de nos vies. Ça peut être vraiment, je l'ai redit, mais ça peut être aussi le couple, ça peut être la famille, ça peut être dans votre vie spirituelle. Il peut y avoir vraiment des saisons, vous pouvez être dans des saisons différentes selon chaque domaine. Et je pense que c'est important de savoir dans quelle saison on est pour vraiment avancer avec ce que Dieu veut nous dire. Ensuite, après le printemps, arrive l'été. Alors, même Jésus, donc, il croissait, et à un moment donné, la Bible nous dit, donc, il s'est fait baptiser une colombe. Enfin, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe sur lui, et il y a eu cette parole qui a été entendue par tous. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, déjà, Jésus, donc, au début, on n'entend pas trop parler, et puis d'un coup, waouh! Tout le monde est là, il se dit, purée, il y a un truc sur cet homme, il est spécial. Donc déjà, on voit là, bam, changement de saison pour Jésus. Il était dans une saison, on n'entendait pas parler de lui. Et là, il commence à se passer quelque chose de visible qui vient à la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'été? Donc, soleil, chaleur, il y en a qui aiment beaucoup. Moi, je suis moins fan, mais c'est pas mal. C'est ce qui fait pousser les fruits. Mais voilà, donc c'est chouette. Donc c'est une saison dans nos vies où on peut se sentir plutôt un certain épanouissement, on voit les choses, on voit le fruit de notre travail, on voit les fruits qui apparaissent sur les arbres. Franchement, c'est quand même gratifiant, je dirais. Mais il faut se rappeler que les arbres portent du fruit qu'à partir du moment où ils sont adultes. Moi, j'avais oublié ça. Et des fois, il peut arriver. Une fois, j'avais, juste pour histoire, j'avais il y a quelques années, j'avais lancé un projet. Et donc, du coup, on avait fait tout ce qu'on avait pu pour développer ça. On s'est dit, ouais, non, mais ça va être génial. Mais t'imagines comment on pourra impacter, on pourra faire tout ça et tout. On se donne les moyens, on fait la com, on fait la pub, on fait tout ce qu'il faut, on prie. Et puis, en fait, franchement, rien. Mais alors, absolument rien de visible, quoi. Aucun fruit. Vraiment, le truc, j'ai dit, dégoûté, quoi. On s'est investi, donc on attend, on patiente et tout. Puis après, à un moment donné, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais en fait, je crois que c'est juste, en fait, on n'était pas mature pour ça, quoi. C'était pas le moment, c'était pas le bon temps. Et en fait, c'est comme si notre arbre était en train de pousser, on voulait de suite, allez, on va lancer ce truc et tout. Et en fait, le Seigneur nous avait pas forcément dit de faire ça, et on n'était pas forcément prête à l'intérieur pour cette. Et donc, du coup, au final, on a dû complètement abandonner le projet. Et ça a été difficile pour nous, pour moi, mais on sentait que ça venait de Dieu. Parce qu'en fait, des fois, on ne comprend pas, mais Dieu sait les saisons qu'on traverse. Et Dieu sait quand est-ce qu'on est prêt pour une certaine chose et pas pour une autre. Donc les fruits sont là. Matthieu 7, verset 16 nous dit, vous reconnaîtrez, alors, il parle d'un arbre, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Et l'été, je dirais, c'est un peu aussi la période où, du coup, les fruits sont révélés. Et le fruit rend visible ce qui est vraiment invisible. Et en fait, c'est là où, justement, ce qui est dans notre cœur, qui a été peut-être caché ou pas vu, est vu à la lumière. Et des fois, on peut avoir des arbres avec un fruit malade, et on se dit « punaise, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ben, c'est le moment d'aller se dire « attends mince, est-ce qu'au final, dans mes racines et tout, il n'y a pas un problème, quoi, il n'y a pas de maladie ? Est-ce qu'il ne faut pas traiter l'arbre ? Est-ce qu'il ne faut pas couper la racine ? Est-ce qu'il ne faut pas... » Et c'est bon de se poser ces questions-là quand le fruit apparaît, de se dire « mais attends, le fruit est révélateur souvent du cœur de l'arbre. » Mais il peut arriver aussi qu'un arbre n'ait pas de fruit des fois. Des fois, ça peut manquer de fruits. Et bien là aussi, se poser la question. On n'est pas là pour s'auto-flageller, mais de dire « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme nous ?» Voilà, ce projet-là, franchement, on s'est dit « mais en fait, on n'est pas mature pour ça, on n'est pas mûr encore. Notre arbre n'est pas assez solide. » Et de se poser les bonnes questions. Et une fois que le fruit est là, autre point, c'est qu'il faut attendre qu'il soit mûr. On a un petit cerisier chez nous. Alors, dès qu'il y avait des cerises blanches rosées, tous les enfants se sont jetés dessus. Alors, j'ai expliqué, mais chérie, en fait, il faut attendre un peu. Non, mais elle est trop bonne comme ça. Je dis, non, elle sera encore meilleure si tu attends qu'elle rougisse. Et puis, c'était là, ah non, mais c'est pas mal comme ça, là. Et c'était acide, mais pour eux, c'était déjà pas mal. Et je disais, mais il y a ce temps de maturation du fruit qui doit être là. Et c'est pas à nous de récolter le fruit nous-mêmes. Et en fait, c'est trop rigolo parce que du coup, c'est dur la patience, c'est dur d'apprendre ça. Et souvent, on a envie nous-mêmes de faire notre propre cueillette. Mais en fait, c'est Dieu, c'est l'agriculteur qui choisit, qui vient. À chaque fois, il vient regarder son fruit, il le regarde, il le tâte, il le sent. Non, pas encore prêt. Hop, il attend quelques semaines, il revient. Ah, là, c'est en train de virer. Ah, trop bien. Hop, il revient. Et au bout d'un moment, il dit, là, c'est bon. Et c'est lui qui récolte ses fruits. Et ça, c'est vraiment un rappel de nous dire, l'agriculteur, notre agriculteur, c'est Dieu. Et lui seul sait quand les fruits sont mûrs. Et c'est à nous d'attendre, d'être patients et de ne pas nous-mêmes récolter même les fruits d'un autre. Ah, génial, tu fais ça, trop bien, je peux utiliser ce truc. Ah non, mais... Attends, non, non. Patientez, aidez les autres à patienter aussi. Que vos fruits, c'est Dieu lui-même qui les récoltera. Parce que le sucre, ils seront mûrs à point. Et c'est que comme ça qu'ils seront meilleurs pour les autres et pour ceux qui entourent. Mais notre rôle à nous, par contre, est de les protéger des prédateurs. Notre cerisier, on a une pie qui vient tous les jours sur le cerisier. Ah, je peux vous assurer que moi, je suis là, derrière ma baie vitrée. Dès que je la vois, je dégomme. Donc, moment, voilà. C'est un prédateur. Bien se protéger, protéger notre arbre de tout prédateur qui voudrait. Et Ésaïe 60, verset 22 nous dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Donc quand c'est le moment, le Seigneur accélérera les processus, le Seigneur fera mûrir ce qui a besoin de mûrir. Donc été très sympa, j'accélère sinon voilà. Mais souvent l'été, qu'est-ce qui peut arriver ? Sécheresse. Bam, je déteste la chaleur. Et un arbre, sécheresse, donc c'est horrible. Mais il faut savoir, un arbre, ça se nourrit par deux choses, les racines et ses feuilles. Et si on regarde déjà les racines, Jérémie 17, versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit, alors que d'autres n'en porteraient pas quand il fait trop chaud. » Et c'est vraiment un encouragement, l'eau, donc pour nous l'eau c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment l'ancrage à Dieu, c'est vraiment une des choses nécessaires à la production du fruit. Et en fait si on voit même les oliviers et tout, l'eau, la présence d'eau ou pas, va impacter le nombre de fruits, la grosseur des fruits, tout, en fait tout. L'eau c'est plus que nécessaire et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire, voilà. Du coup, pour qu'un arbre résiste aux épreuves, il ne doit pas seulement donc, pousser en hauteur, comme on l'a dit, mais pousser en profondeur, être sûr que nos racines sont ancrées. Sinon, on ne résistera pas à la sécheresse. Marc 4, verset 17 nous dit « Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Et pour moi, c'est un rappel vraiment de nous nourrir de Dieu et de Dieu lui seul. Mais il se nourrit par les racines, un arbre se nourrit aussi par les feuilles. Et donc ça, en captant la lumière, il transforme cette énergie et il la stocke après du coup dans l'arbre, et c'est ce qui fait une nouvelle sève. Et c'est cette sève-là, c'est celle qui est stockée et qui sera la nourriture pendant l'hiver pour l'arbre. Et du coup, pour moi, tout le climat, l'environnement, c'est un peu le contexte dans lequel on est. C'est nos circonstances. Donc il peut y avoir des circonstances faciles, il peut y avoir des circonstances difficiles. Ben, du coup, c'est l'orage, c'est la pluie, c'est le vent, c'est... Mais notre rôle à nous, c'est dans chaque circonstance, prendre le meilleur, prendre ce qui est là à prendre et le transformer en quelque chose qui va pouvoir nous nourrir. Dieu transforme le mal en bien. Et même dans la pire des circonstances, on peut se dire, ben, on peut chercher Dieu et voir, ben, Dieu, il est fidèle. Ok, ben, c'est la chose que je vais tirer de ma pire circonstance. Dieu est fidèle. Et c'est ce qui me nourrira lorsque ce sera le temps de l'hiver et lorsque j'aurai plus rien à manger, plus rien à voir, quoi, entre guillemets. Et du coup, de profiter de ces saisons-là pour vraiment tirer le meilleur et transformer nos circonstances pour qu'elles soient une bénédiction pour nous. Donc la lumière, c'est la bonne chose, voilà, que l'arbre aura su transformer, deviendra sa nourriture pour la saison d'hiver. Et nous, nous devons apprendre à faire de même. Jésus ensuite, donc différentes étapes de sa vie, voilà, il s'est fait baptiser, tout magnifique. Et là, on se dit, ouais, son ministère va éclore. Et là... comme Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible, il est en Égypte et tout, et puis là ça commence à éclore, il est chez M. Potiphar, il dirige tout, et là, bam, injustice, il part en prison. Et là, donc, Jésus fait baptiser, et Luc 4, verset 1 nous dit, « Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Pendant 40 jours, il a jeûné, et il a tout simplement résisté au diable qui est venu le tenter jour après jour. Donc il ne s'est rien passé de grandiose, il n'a pas fait de miracle dans le désert, il n'a pas fait pousser de l'herbe et un palmier pour s'asseoir, il n'a fait que résister à l'ennemi. Et Jésus lui aussi a su traverser ces périodes-là. Et Luc 4, verset 13, par contre, après avoir achevé de le tenter, le diable, parce que donc Jésus a résisté jusqu'au bout, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Donc on voit bien qu'il y a des saisons aussi. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Et là, Jésus rebascule dans une autre saison parce qu'il a été fidèle dans cette saison-là. Il peut enfin passer dans la saison d'après. Et nous, c'est vraiment un encouragement, que ce soit dans votre famille, dans votre boulot, au lycée, dans le couple. C'est difficile de vraiment de persévérer et de résister. Des fois, résister, c'est juste garder sa position et ne pas laisser l'ennemi nous dire des mensonges et croire à tout ça. Mais rien que ça nous permet après de passer dans la saison d'après. Puis arrive l'automne. Alors, Jésus, après tout ça, avoir été tenté et tout ça, ça y est, enfin, premier miracle aux noces de Cana. Comme le vin venait à manquer, donc sa maman, la maman de Jésus, lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus dit « Mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ça veut dire, enfin c'est un peu fort, mais ça veut dire « Que veux-tu de moi ?» Il dit « Mon heure n'est pas venue. » Jésus connaissait la saison dans laquelle il était. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Donc après il fait le miracle. Et tel fut le début, donc le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Jésus lui-même savait qu'au début il devait rester un peu caché, qu'il devait juste grandir dans sa relation avec Dieu. Et à un moment donné, ça y est, c'était le temps. Maintenant, il est rendu visible et maintenant, on va voir le fruit. Mais si on ne connaît pas ces saisons, on ne peut pas coopérer avec ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, récolte. Alors, certains fruits ou légumes, c'est la fin de l'été. D'autres, c'est à l'automne. Si on prend la parabole de la vigne, où... Dieu donc parle, enfin Dieu est considéré comme le vigneron, Jésus le cep et nous sommes les sarments. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent encore plus de fruits, un fruit encore plus abondant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Vous ne pouvez porter aucun fruit. Et donc j'avais un oncle vigneron qui toujours, il allait toujours dans ses vignes. À peine on le voyait, hop, il prenait son tracteur. Ah, tu vas où? Ah, ben je vais voir mes vignes. C'était son bébé, quoi. Et maintenant, je comprends. En lisant la Bible, je me dis, mais en fait, je comprends. Il allait toujours voir comment allait sa vigne, comment était son raisin, est-ce qu'il était mûr. Et quand c'était la récolte, on ne le voyait plus. Alors là, il partait. Et puis là, c'était, ah là là, le raisin est prêt, tout ça. Et vraiment, l'automne, c'est un temps de, je dirais, c'est un temps de célébration. On a enfin le fruit de ce qu'on, de ce qu'on a semé, enfin, de ce qu'on a, voilà, de ce qu'on a travaillé. Et du coup, c'est vraiment un temps aussi pour s'arrêter, pour célébrer Dieu et vraiment être reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est important ça, parce que des fois, on peut enchaîner une saison après une saison, un projet après un projet. On se dit, ah ouais, Sina, bon, maintenant, c'est quoi le prochain truc? Mais il y a besoin aussi de s'arrêter et de savourer et de déguster ce que Dieu fait dans nos vies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui c'est une clé aussi, parce que Dieu est un Dieu de fêtes. Le nombre de fêtes dans la Bible, c'est incroyable. Et il y a même ce verset... Bon, je ne sais plus où il est. C'était sur mon PowerPoint. Qui dit que Dieu nous appelle à faire donc célébrer la fête des récoltes, la fête de la moisson, pour justement, à tout jamais, pour justement. C'est un remerciement et une reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, automne, récolte, magnifique. Rien à dire, super. Mais ensuite, on sait tous. Que ce soit les vignes ou que ce soit les arbres, ils commencent à perdre leurs feuilles. Et puis là, l'hiver va bientôt arriver, le froid commence à arriver. Et on se dit, ah oh, punaise, là c'est la mouise. Et ça, c'est pas ma saison préférée pour de vrai aussi. Mais Dieu m'a vraiment parlé par rapport à qu'est-ce que c'est en fait cette saison-là. En fait, l'arbre, déjà naturellement, pour se préparer à l'hiver par la chute des températures, il y en a qui connaissent, la sève qui normalement nourrit l'arbre à l'intérieur, qui passe des racines, qui va aux feuilles, qui nourrit, qui amène toute la nourriture. Quand le froid approche, la sève se retire des extrémités et elle va que dans les racines. Et c'est parce qu'elle se retire de l'extrémité que tombent les feuilles, que commencent à mourir les feuilles et tout ça. Et en fait, vous savez pourquoi elle fait ça, la sève? En fait, c'est tout simplement parce que si elle restait dans les extrémités, en fait, la plante ou la vigne passerait trop d'énergie à lutter contre le froid. Et en fait, ça pourrait carrément tuer la plante elle-même. Alors que si la sève se retire et qu'elle accepte que des choses dans notre vie tombent, et qu'elle accepte que c'est une saison pour se retirer vers les racines, se retirer vers Dieu, se retirer pour passer du temps dans l'intimité avec Dieu, accepter que des projets, voilà, des choses tombent, et ben c'est vraiment pour se protéger nous-mêmes. Et nous protéger de la dispersion, nous protéger de perdre notre énergie et de nous geler les doigts, les branches. Et du coup, parfois, mieux vaut volontairement, je dirais, sacrifier nos feuilles plutôt que notre future récolte. Et des fois, dans notre vie, on a des choix à faire. Se dire, ben, ok, une saison qui s'annonce pas évidente. Nous, à chaque période fiscale que traverse mon mari, avant, je me prépare. Et je me dis, bon, là, ça va être costaud. Et toujours, je me dis, bon, est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser tomber, des feuilles que je dois laisser tomber dans ma vie pour pouvoir avoir la force et l'énergie de traverser cette période? Et donc, du coup, souvent, ben, les travaux dans la maison, les trucs un peu, ben, je les mets en stand-by. Je dis, bon, ben, je voulais qu'on fasse l'arrêt à la maison, tant pis. Allez, hop. Et je sais que pendant 6 mois, on ne va pas y toucher. Mais c'est un choix personnel qui m'aide à mieux traverser cette période. Et c'est l'occasion justement de dire, bon ben ok, je préfère prioriser ça dans ma vie, c'est plus important. Mais je sais que du coup, je pourrais mieux traverser la suite. Donc voilà, si vous êtes dans un automne, voilà, qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devez peut-être mettre de côté ou sacrifier des petites choses pour mieux vivre la prochaine saison? Que le Seigneur, que le Seigneur montre. Et ensuite, l'hiver. Alors là, l'hiver aussi, c'est pas très cool, à part la neige, mais ça, c'est pour les enfants. Jésus lui-même, donc il fait plein de miracles, il vit sa vie, franchement, c'est incroyable, ça porte du fruit, les gens sont guéris, voilà. Et puis, vers la fin, pendant sa prière sacerdotale, il sait la saison dans laquelle il est, il sait que maintenant, ça y est, c'est le moment où il va devoir mourir. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. glorifie ton fils, afin que le fils te glorifie. Jean 17, verset 1. Et du coup, il sait que, mais il s'est préparé, il sait que maintenant c'est le moment. Mais du coup, il est prêt à accepter le fait que les soldats vont venir pour l'arrêter. Et cette fois-ci, il va se laisser aller avec. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, plusieurs fois, les pharisiens avaient essayé d'arrêter Jésus, mais Jésus est passé dans la foule. Et il ne se laissait pas arrêter. Et là, il sait que c'est le bon moment. Les soldats arrivent, il va avec eux. Parce qu'il sait que maintenant, c'est le bon timing. Et donc, l'hiver, donc, première chose dans l'hiver, chose la plus difficile, enfin l'hiver, ou fin de l'automne, ça dépend comment vous faites, mais la taille de l'arbre. Jean 15 nous dit « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron », comme on l'a lu. « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc la taille, c'est à la fois enlever les choses inutiles de nos vies, les sarments inutiles, donc ça on est à peu près d'accord, on se dit oui, ça va, à la rigueur. Mais il vient aussi tailler les branches qui portent du fruit. Ça, ça fait plus mal. Parce que ça, c'est quelque chose auquel on tient, c'est dans nos vies, ça peut être justement un projet, on se dit mais purée, mais là pourquoi ça bug, là pourquoi, ah, mais c'est justement le Seigneur, il sait qu'il a besoin de couper ça pour que justement la saison d'après, le fruit soit encore plus beau, encore plus merveilleux. Et il fait ça parce que c'est lui qui va donner la bonne forme à la vigne. Et on a un arbre chez nous, on a planté plein de petits arbres, mais on n'est pas non plus des jardiniers. Donc, j'avais un petit poirier, et il fait pas de fruits. Bon, on ne l'a jamais fait. Donc, on dit, bon, c'est pas grave, on continue de l'arroser, le bichonner, ça fait des années. Hein. Et puis, à un moment donné, mon père arrive, il me dit, mais... ah oui. Puis je dis, mais il est passé où le poirier, je ne voyais plus. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait coupé les branches. Mais les branches, mais il n'y avait quasiment que le tronc. Je dis, mais papa, mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est une blague ou quoi? Et j'étais hyper en colère. Il me dit, mais ma chérie, les branches, elles étaient mortes en fait. Je dis, ah bon, elles étaient mortes? Ben oui. T'attends sur un pommier avec les branches mortes. Et, ben, forcément, il ne fait pas de fruits. Ah! Et là, j'ai déchanté. Il a fait ça, donc je ne vous raconte pas la tête de mon. Voilà, un truc tout moche. Et quelques semaines après, je vois déjà des fleurs. J'ai dit, non, mais c'est une blague. Et j'ai dit, mais en fait, il avait compris. C'est que nous, on le laissait comme ça. On se dit, oh, mais je ne vais pas lui faire de mal, il est trop mignon, ce petit poirier. Mais en fait, il est trop mignon, mais s'il ne porte pas ce fruit, ça ne sert à rien. Et des fois, il vaut mieux attendre voilà, et le faire. Et il m'a dit, c'est le bon moment pour le faire. Parce que du coup, à l'automne, comme la sève est en bas, ben justement, c'est la période la moins douloureuse pour le faire. Ça fait toujours mal, mais j'en ai vu déjà les fruits. Non, sauf qu'on l'a fait, avant fin de l'hiver, on l'a fait, avant le printemps. Donc, petit exemple de la taille qui est pas évidente, qui peut être douloureuse, et où des fois le Seigneur peut, voilà, justement nous parler, mais c'est le moment de vraiment laisser notre cœur être émondé, et c'est ce qui va vraiment révéler notre identité aussi en Christ, parce que franchement, la tête de mon poirier, voilà, et ben des fois on peut avoir une tête un peu bizarre. Après avoir été émondé, mais le vigneron, l'agriculteur, c'est ce qu'il fait. Et mieux ça, mais porter de fruits que l'inverse. Et en fait, c'est vraiment, c'est la taille qui sera effectuée par le vigneron qui va déterminer la qualité de la récolte de l'année suivante. Et ça, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une clé dans le fait de se laisser tailler, de se laisser pruner par Dieu pour vraiment pouvoir porter du fruit. Et l'hiver, après, ben forcément, une fois qu'on a été un peu taillé, ben, rien ne semble se passer. Et ça, c'est la saison qui n'est pas aussi facile à passer, parce que des émotions peuvent venir, il y a le froid qui est là, le gel et tout ça, mais nous, on peut ressentir la colère, de l'amertume, de la sécheresse. On voit les autres, ils sont dans une saison de récolte, je dis, purée, moi là, c'est pas possible. Mais c'est aussi accepter qu'on est dans une saison. Et de se réjouir de que l'autre est en train de récolter, ben génial, il est dans sa saison de récolte, et ben on va se réjouir avec lui. Et moi, ben un jour, je serai dans une saison de récolte. Mais là, tout simplement, je dois apprendre à me centrer, à retourner sur les racines, et sur vraiment la parole de Dieu, à laisser Dieu parler à mon cœur. Et c'est une période du coup de repos, parce qu'à un moment donné, c'est Dieu qui doit faire les choses. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien en hiver, mais il se passe beaucoup de choses. Et en fait, comme on l'a vu, tout ce qui a été récolté pendant l'été, la nourriture qui a été récoltée par la photosynthèse là, pendant l'été, c'est cette nourriture qui va nourrir l'arbre tout l'hiver. Donc en fait, en hiver, on ne va jamais manquer de nourriture. Il y a les racines, et il y a ce qu'on puise en Dieu, il y a ce qu'on aura récolté des saisons d'avant, et c'est temporaire, mais c'est vraiment nécessaire. Et parce qu'en fait, l'arbre se repose. Et le repos, c'est vraiment biblique. Dieu a instauré le sabbat, Dieu a instauré plusieurs choses comme ça. Et Osée 2, verset 16 nous dit, c'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et le but de cet hiver, c'est que Dieu parle à notre cœur. Et sans repos, en fait, l'arbre, en fait, il est en train de se reposer de sa récolte, je dirais, et de garder cette énergie parce qu'il aura besoin de cette énergie pour la saison d'après. Ou là, au printemps, par contre, il faudra être au taquet. Et je me rappelle d'une fois, donc, quand on était rentré d'Angleterre, on avait reçu qu'on devait créer cette église. Et moi, j'étais enceinte, Olivier ne trouvait pas de travail, période de chômage pendant plus d'un an, déprimant. Enfin, c'était très dur pour Olivier, on n'avait pas un sou et tout. Mais à la fois, on avait un bébé et tout, donc oh, c'était bien quand même. Mais hyper difficilement, je peste, je dis, mais pourquoi il ne trouve pas de travail? Et après, on peut se retourner contre Dieu. On peut dire, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu entends? Est-ce que tu n'entends pas mes prières? On a l'impression que nos rêves s'évanouissent. On a l'impression que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu ne nous répond pas, qu'il n'est pas puissant. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, dans quelle saison je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vraiment senti le Seigneur me parler. Il me dit, mais en fait, ça me rappelle le souvenir, mais ça m'émeut. Mais en fait, le Seigneur me vraiment me disait, mais profite de cette saison, parce qu'en fait, dans la saison d'après, tu verras peu ton mari. Moi, je suis comme ça, je pleure un peu. Et en fait, c'est ce qui m'a donné la force de traverser cette saison de chômage qui était très difficile et financièrement aussi hyper difficile. Mais parce que pendant 3 ans après, donc Olivier a retrouvé du travail, mais il n'était pas là 12 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant 3 ans. Et moi, je retrouvais avec un bébé, on implantait une église. Et je peux vous assurer qu'en fait, d'avoir su écouter Dieu avant, j'ai dit, mais en fait, je profitais de mon mari à fond, quoi. Et du coup, on a pris du temps ensemble et tout. Et ça m'a permis de traverser la première saison, mais ça m'a aussi permis de traverser la deuxième, parce que dans la deuxième, je bénissais Dieu de ce qu'il m'avait parlé avant et de ce que j'avais stocké, l'énergie et tout ce dont j'avais besoin dans mon arbre pour vivre cette saison d'après. Et après. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas prévu, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me rappelle la fidélité de Dieu, en fait. Et c'est vraiment un encouragement à demander à Dieu dans quelle saison vous êtes dans tel domaine. Et Dieu va vous parler. Et Dieu peut vous donner la force de traverser cette saison pour mieux vivre celle d'après. Et de récolter encore plus de fruits. Et donc en gros, c'est vraiment un encouragement. Pas la peine de booster les saisons aussi. Vous avez déjà goûté les tomates d'hiver, boosté à l'engrais, excusez-moi, c'est vraiment dégueu. Enfin, c'est pas le top, quoi. Elles n'auront jamais le même goût qu'une autre tomate, qu'une tomate d'été, je veux dire. Mais apprendre à travailler avec les saisons et avec les temps de Dieu. Et comme Jésus a su discerner les saisons dans lesquelles il était, et qu'il a su vraiment optimiser ça et tout traverser, ben nous devons apprendre à faire pareil. Et Jean 15, verset 15, nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et le seul moyen aussi que pour un fruit de demeurer, moi chez moi les fruits pourrissent, si on ne les mange pas, je ne sais pas vous, moi ça pourrit, c'est qu'à un moment donné, le fruit, c'est que l'arbre il puisse essaimer un autre arbre et que cet autre arbre puisse porter du fruit. Et qu'à un moment donné dans notre vie, il y a un stade de maturité qui fait que du coup, ok, l'arbre il porte du fruit, saison après saison, il va être plus fort, il va être plus solide, il va pouvoir tenir malgré les tempêtes, il grossit en envergure, en épaisseur, en profondeur. Mais aussi à un moment donné, Dieu va lui demander de essaimer. Et à un moment donné, c'est en essaimant que là, d'autres pourront porter du fruit et que le fruit va demeurer. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et peut-être que vous êtes aussi dans une saison là, peut-être, où vous sentez que dans certains domaines, vous devez essaimer. À un moment donné, c'est le moment de reproduire, c'est la fête des mères. Et voilà, c'est pas juste au niveau des générations, mais c'est aussi dans vos dons, vos capacités, vos talents. C'est un moment aussi des fois de booster et de pas faire les choses trop vite, d'accepter que, encore une histoire d'arbre, on a un prunier, que chez nous. Et puis la première année, il fait plein de prunes. Oh, trop bien, j'ai fait des tartes et tout, génial, avec ce petit prunier. Depuis, zéro prune. Zéro prune. Ça fait 6 ans qu'on l'a. Et il n'y a pas longtemps, on s'est dit, ah, mais tu te rappelles, en fait, il nous avait dit que la première année, il fallait enlever les prunes parce que ça épuiserait trop l'arbre, parce qu'il était trop petit. Et j'ai dit, mais quelle idée. Et des fois, dans nos vies, accepter que justement, on doit atteindre certaines maturités et que Dieu sait ça et que pour porter une abondance de fruits, il faut aussi une maturité que Dieu nous donne. Donc en gros, c'est un encouragement. Connaître nos saisons, connaître les saisons dans lesquelles les autres sont pour mieux les encourager aussi, pour mieux être avec eux, pour mieux les soutenir. Et le truc rassurant, c'est que de toute façon, on grandit toujours et que notre croissance, elle ne s'arrête jamais. Et donc, je vais juste prier. Si peut-être vous voulez vous lever